Bon, je suis équipé d'une manière un peu spéciale, moderne. Ça résonne un peu, hein. Est-ce que vous m'entendez clairement ? Bon, parce que moi, je m'entends et parler. Alors, c'est vrai que c'est un métier où on s'écoute parler, mais s'entendre parler aussi, c'est encore plus désagréable que de s'écouter parler. Bon, je vais essayer de m'oublier. Ce qui est d'ailleurs un précepte de Rousseau, dont je vais vous parler donc pendant l'heure qui vient, à peu près, hein, à peu près une heure et un quart, d'accord. Mais de Rousseau, simplement, simplement, c'est déjà pas mal, auteur du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, c'est le titre complet, que Rousseau a publié en 1755. Il avait publié quelques années avant, en 1750, le discours sur les sciences et les arts, quelque chose comme ça, le titre, qui lui avait valu le prix de l'Académie de Dijon, qui lui a valu une rue à Dijon. Et fort de ce succès, il a renouvelé la tentative et envoyé le manuscrit du deuxième discours, on l'appelle le deuxième parce qu'il a suivi, à Dijon, où là, le jury a arrêté la lecture à la moitié du manuscrit en disant que c'était beaucoup trop compliqué, beaucoup trop long, ce qui est un peu vrai, mais ce qui est beaucoup plus fondamental que le premier. Comme quoi, les jurys ne se trompent quand même pas souvent. Ils reconnaissent très facilement les choses importantes négativement. Hein. Donc, ce qui est une assez bonne façon aussi de les reconnaître. Et puis la troisième date, pour ce qui nous importe, c'est 1760, le contrat social, qui clôture en quelque sorte le travail théorique, philosophique, juridique aussi, de Rousseau. Je dis juridique parce que Rousseau a en vue le concept ou la notion de droit naturel dont il hérite de plusieurs philosophes, et notamment de Hobbes, mais aussi Grotius, Hobbes, Pufendorf, un tout petit peu avant lui. C'est avec cette notion de droit naturel qu'il va chercher à comprendre ce qu'est l'homme à l'état de nature et comment il est passé de cet état de nature hypothétique. C'est une pure hypothèse, c'est une comme en mathématiques, hein, à l'état civil. Donc, au fond, le discours sur l'origine de l'inégalité, le discours l'origine et les fondements, est en quelque sorte un discours pseudo-historique. C'est-à-dire que Rousseau va chercher à tracer les grandes lignes, les grandes époques d'une évolution qui a conduit l'homme de l'état de nature à l'homme de l'état civil. Et pour utiliser les mots de Rousseau, et ces expressions sont extrêmement importantes, pour le passage de l'homme de la nature, c'est-à-dire tel que la nature l'a produit, tel qu'il est sorti de la nature, à l'homme de l'homme, c'est-à-dire à l'homme tel que l'homme l'a produit, tel qu'il s'autoproduit, d'une certaine manière. Et donc, une des grandes originalités de Rousseau est d'avoir introduit l'histoire, c'est-à-dire le devenir, le changement, la contingence, dans la nature, et de comprendre la nature de l'homme par son histoire. Histoire hypothétique, histoire reconstituée, un peu comme fait la géologie, la paléontologie pour les sols, pour les pierres, pour les couches, hein. Un peu comme fait son contemporain Buffon, hein, le discours sur l'origine de l'homme, le discours sur l'histoire naturelle. Bon, donc Rousseau, de ce point de vue, emboîte le pas à une tradition, mais à la différence de cette tradition, il considère que l'homme doit faire l'objet justement de cette sorte de recherche archéologique qui consiste à se demander quelle peut être l'origine de l'homme et quelle peut être l'origine de cette transformation progressive de l'homme en être social. Voilà. Alors c'est pour cela, je vais faire un exposé croisé, si vous voulez, hein, je vais vous expliquer. C'est pour cela que le plus grand anthropologue et ethnologue de notre temps, Claude Lévi-Strauss, l'auteur de magnifiques Tristes Tropiques, Les structures élémentaires de la parenté, l'anthropologie structurale, les mythologiques, enfin bon, une grande œuvre, une œuvre considérable, a écrit en 1962, c'était le 350e anniversaire de Rousseau, il a écrit en, je crois, en 1962, il a prononcé en 1962 à Genève une conférence dont le titre est intéressant pour nous, Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l'homme. Alors, c'est un petit peu ce croisement que je vais essayer de faire, c'est-à-dire de voir Rousseau à travers la lecture qu'en fait Lévi-Strauss, afin de repérer justement ce qu'il peut y avoir de nouveau et de prospectif dans la démarche de Rousseau par rapport aux sciences de l'homme à venir, puisque les sciences de l'homme, il n'y en a pas. Il y a des traités de la nature humaine, mais il n'y a pas de sociologie, il n'y a pas d'ethnologie, il n'y a pas d'anthropologie, où ça commence à peine. Ça commence à peine. Et l'idée de Lévi-Strauss, qui quand même ne s'oublie pas, si vous voulez, dans l'éloge qu'il fait de Rousseau, l'idée de Lévi-Strauss, c'est que Rousseau, le discours de Rousseau, le deuxième discours, marque une rupture considérable et un changement donc considérable, c'est-à-dire que l'on passe de la métaphysique, de la philosophie, à une autre discipline destinée justement à critiquer les illusions et les préjugés de la philosophie. Autrement dit, Lévi-Strauss envoie une pierre dans le jardin qu'il a pourtant bien fréquenté, puisqu'il était agrégé de philosophie, mais on n'est jamais plus adversaire que de soi-même, surtout au passé. Et il a dit, si vous voulez, qu'au fond, les philosophes qui critiquent tout le monde et qui passent leur temps à dénoncer les préjugés des uns et des autres ne supportent pas beaucoup qu'on parle d'eux en termes de préjugés. Or, c'est justement ça qu'a fait Rousseau, et c'est pour ça qu'il mérite les louanges qu'il lui tresse dans ce discours, dans cette conférence magnifique, d'une grande densité conceptuelle, qui s'appelle donc Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l'homme. Donc voilà un petit peu la perspective et le motif de l'exposé que je vais tenter de vous présenter en quatre moments. Et rappelez-moi si j'en oublie un, n'hésitez pas, parce que bon, je ne vais pas faire le va-et-vient avec mes notes. En quatre moments, le premier dans lequel justement je vais évoquer le point de départ de Rousseau dans le discours sur l'origine de l'inégalité, donc en gros, si vous voulez, l'homme à l'état de nature. Le deuxième, le passage de l'homme à l'état de nature à l'homme civilisé, si je puis dire, que Lévi-Strauss appelle d'une manière ironique l'homme domestiqué, pour le différencier du sauvage. Et puis, dans les deux points suivants, je parlerai du rapport de l'homme et de l'animal, car il est central dans le second discours, et je parlerai enfin du rapport de l'homme aux hommes, car il est aussi central dans ce deuxième discours, quoique moins présent que la question de l'animal. Donc, quatre points. Il faut commencer, et toujours commencer, c'est toujours comme ça après Hobbes, il faut commencer par rappeler une ou deux petites choses concernant la philosophie, l'anthropologie, la philosophie politique de Hobbes. Hobbes, je me tourne vers les étudiants, les élèves, Hobbes est le philosophe qui a écrit notamment le Léviathan en 1650 et qui est connu pour avoir édifié, à partir d'une théorie de l'homme, d'avoir édifié une théorie sommaire de l'homme, avoir édifié une théorie de la souveraineté politique. Autrement dit, pourquoi obéissons-nous ? Je passe évidemment, je suis très schématique, la réponse de Hobbes, en ce sens très en décalage par rapport à ses prédécesseurs théoriciens du droit naturel, consiste à dire que l'homme à l'état de nature, l'individu à l'état de nature, se trouve vis-à-vis de ce qu'on ose à peine donner ses semblables, vis-à-vis des autres hommes, dans un état, l'expression est restée légendaire, de guerre de tous contre tous. L'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous. Autrement dit, chacun poursuit son intérêt, chacun cherche à survivre, à conserver son être, et de ce point de vue, il n'y a rien à critiquer. C'est le droit naturel, c'est ce qu'il y a de plus naturel et de plus légitime pour chacun, de chercher à défendre ce qu'il est et à accaparer le plus de biens possible dans la mesure où il l'estimera nécessaire à sa survie. Seulement, le problème, c'est que tout le monde en fait autant. Et donc, forcément, on va se trouver dans une situation, si vous voulez, de choc, de conflit, si ce n'est véritable, si ce n'est avéré, du moins potentiel. Et c'est pour sortir de cet état de misère humaine, où la vie est brève et angoissante, que les hommes vont renoncer à leurs droits de nature, c'est-à-dire finalement à leur liberté, et vont se donner un souverain qui va exercer sur eux le pouvoir absolu, puisque justement ils se seront démis de leurs droits naturels. Donc en fait, le souverain, lui, sera le seul à garder le droit naturel et à exercer donc son pouvoir sur tout le monde. Si vous voulez, au lieu de se craindre les uns les autres, nous craindrons tous le même homme ou la même institution. Mais si, Hobbes est quand même plutôt partisan de la monarchie, c'est-à-dire d'avoir un souverain qui soit une personne physique. Voilà en gros, si vous voulez, le schéma, en très gros, hein, le schéma hobbesien. Et au fond, on peut dire, si vous voulez, que toute la suite de la réflexion politique, juridico-politique, les deux choses ne se séparent pas, a consisté à chercher une réfutation de Hobbes. Il n'y a pas un auteur, si vous voulez, qui échappe, que ce soit Locke, que ce soit Rousseau, que ce soit Helvétius, que ce soit D'Holbach, que ce soit pas Kant à la fin du siècle. Chacun a cherché à réfuter l'horrible Hobbes. C'est-à-dire qui dit les choses comme elles sont, quoi. À chercher à réfuter. Et Rousseau, justement, s'emploie à le faire dans ce deuxième discours. C'est pour ça que c'est très important. Et même si le nom de Hobbes est prononcé qu'une fois, je crois, il est continuellement présent, et notamment dans la première partie. Alors, Rousseau, en habile rhétoricien et orateur, Rousseau trouve un biais par lequel, justement, il va réfuter, sans le faire d'une manière directe, la conception hobbesienne de l'homme à l'état de nature, c'est-à-dire l'homme méchant, l'homme naturellement méchant. Ça, c'est une vue idiote, si vous voulez, qu'on a de Hobbes, mais bon, elle reste comme ça. C'est pour Hobbes, l'homme est méchant. L'homme n'est pas méchant, l'homme cherche à vivre. Il n'est ni méchant ni bon, il cherche à vivre. Mais Rousseau prend pour acquis l'idée que, au fond, Hobbes suppose les hommes méchants. Et c'est pour ça qu'il va leur donner, si vous voulez, un pouvoir qui va les tenir en tutelle, qui va les tenir sous surveillance et sous la menace de la punition, sous la menace du châtiment, un pouvoir extrême. La stratégie de Rousseau consiste à dire: on ne se préoccupe pas des faits, commençons par écarter tous les faits. La phrase est célèbre, hein, commençons par écarter tous les faits. Ça veut dire, si vous voulez, qu'on ne va pas raisonner factuellement, car factuellement, il y a des tas de données et on ne peut rien en tirer, hein, mais on va raisonner hypothétiquement. Et à partir de l'hypothèse, on va déduire des conséquences qui vont en retour justifier l'hypothèse. Démarche classique. Mais c'est une démarche intéressante dans un ouvrage qui cherche à déterminer les fondements, finalement, de l'anthropologie, de la science de l'homme. On n'applique pas, en général, ce type de méthode à ce type d'objet. Rousseau tente de le faire. Alors, quelle est l'hypothèse de l'état de nature? L'hypothèse, c'est que l'homme à l'état de nature, et c'est au fond la seule chose qu'il faut retenir, l'homme à l'état de nature est isolé, vit seul et solitaire. Et cette solitude a des inconvénients, hein, sans doute. Cette solitude a des inconvénients, mais elle a aussi des avantages. Ou plus exactement, cette solitude s'accompagne d'autres propriétés. Autrement dit, on ne peut pas être solitaire et progresser dans le raisonnement. On ne peut pas être solitaire et parler, ça arrive si vous voulez, mais bon, on va passer là-dessus. Hein. On ne peut pas être solitaire et travailler. Bref, si vous voulez, la solitude confine l'homme dans une sorte d'état végétatif. État végétatif dans lequel l'homme est heureux, non pas heureux avec la conscience de l'être, mais heureux, si vous voulez, d'une manière un peu, comment dire, un peu béate, c'est-à-dire un peu bête, ouais, même pas mal bête d'ailleurs, hein, car l'homme à l'état de nature, si vous voulez, est très proche de l'animal. Très proche de l'animal, il vit une vie solitaire, il vit une vie faite de très petites choses, il vit une vie courte, hein, mais, et c'est ça à quoi Rousseau veut en arriver, il ne rencontre pas de semblables, et par conséquent, il ne noue avec eux ni relation intime, relation d'union, d'association, ni conflit, ni relation de guerre, ni guerre, ni paix. L'état de nature est un état neutre. Et c'est tout ce que veut Rousseau, montrer Rousseau, que l'homme à l'état de nature, si vous voulez, non plus, il n'est ni bon ni mauvais, mais il n'est au fond livré à sa pure existence ponctuelle. Sa vie n'est qu'un présent renouvelé, un présent continué en quelque sorte. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de conscience de l'avenir. Par conséquent, vous voyez un homme au fond très proche de la condition animale, du moins tel qu'on l'imagine. Alors, ce temps aurait pu durer éternellement si, et il y a toujours chez Rousseau, si vous voulez, des circonstances additionnelles qui sont de l'ordre du hasard et d'un funeste hasard, hein, pour reprendre son expression, si, justement, par le biais des rencontres, des occasions, du hasard, justement, l'homme n'allait pas sortir, l'individu, hein, je parle, sortir progressivement de cet état de solitude, de non-besoin, hein, cet état, si vous voulez, qu'on pourrait appeler un état autarcique, hein, au sens où, finalement, l'homme se suffit à lui-même. Idée fondamentale chez Rousseau. Le bonheur, c'est ça, chez lui. C'est l'autarkeia, le fait de constituer, en quelque sorte, un petit monde, une petite bulle, une petite île. Si vous connaissez Rousseau, vous savez que la plupart de ses ouvrages portent sur des îles, des asiles, des îles, hein, c'est-à-dire des endroits où on peut se recentrer, se retrouver, se s'enfermer d'une certaine manière, et seul. Hein. La solitude, Rousseau est quelqu'un qui connaît très bien ça, et qui apprécie très bien ça. Alors, bon, laissons la vie de Rousseau et ses inclinations particulières, donc, pour dire qu'il y a un moment, mais on ne sait pas ni pourquoi ni quand, évidemment, puisque c'est hypothétique, il y a un moment où l'homme sort de cet état d'autosuffisance et commence à nouer des liens avec d'autres individus. Il commence à... non seulement, vous voyez, dans l'état de nature, un homme et une femme se rencontrent, salut, au revoir, et puis comme il n'y a pas beaucoup de paroles non plus, donc il n'y a même pas ça, vous voulez. Bon, donc la rencontre est ponctuelle, elle n'est pas suivie, si vous voulez, de souvenirs, de lettres d'amour et de messages. Non, c'est purement ponctuel. Mais avec la rencontre, apparaît l'homme et la femme, le couple, couple... Qui dit couple dit famille, les enfants, bref, apparaît, si vous voulez, un élargissement du cercle du soi. Le soi, c'est plus simplement soi, c'est aussi une compagne, des enfants, un endroit où on vit et qu'on détermine, bref, les premiers linéaments de la socialité, plus que de la société, de la socialité. Les premiers. Et l'esquisse, si vous voulez, de la société. Premier essai. Bon, tant que c'est une esquisse, ça va. Hein. Tant qu'on commence, ça va. En général, c'est toujours comme ça chez Rousseau. Les commencements, ça va. Hein. Tant qu'on commence, ça va. Mais après, ça se dégrade. Et tout le discours de l'origine de l'inégalité, sur l'origine de l'inégalité, est un discours, si vous voulez, sur la dégradation, sur la décadence. Hein. C'est-à-dire, c'est l'histoire à l'envers. Et c'est très curieux, j'ouvre une parenthèse, c'est très curieux, si vous voulez, en plein siècle des Lumières, où le progrès semble avoir acquis la dimension d'une foi religieuse. Hein. C'est-à-dire que croire au progrès, c'est comme croire en Dieu. Hein. Et le progrès, c'est à la fois les Lumières, la raison, la société, le droit, l'égalité, hein, tout ça. Eh bien, Rousseau, mais ça, il aime bien faire ça par tempérament, prend le contre-pied de cela et va montrer justement que l'évolution de l'homme est une évolution catastrophique et quelque chose, si vous voulez, qui, justement, arrive à des conflits et des inégalités que l'homme, à l'état de nature, ne connaît pas. Donc, la stratégie de Rousseau va consister à montrer que c'est l'homme qui est à l'origine des inégalités que l'homme subit. C'est l'homme, en un sens, si vous voulez, qui devient l'ennemi de l'homme. La nature n'a rien à voir là-dedans. Par nature, les hommes ne sont ni bons ni mauvais. Par nature, les hommes sont ce qu'ils sont. C'est du fait, si vous voulez, de l'évolution de l'humanité. Et cette évolution, évidemment, elle a un point critique. C'est la propriété. C'est la propriété. Le premier qui, ayant enclos un terrain et a dit « ceci est à moi », peut être considéré comme le véritable fondateur de la guerre ou de... Je glose, hein, mais j'ai le texte presque sous les yeux, pas loin, de la société. Hein. Il aurait fallu dit Rousseau avec son éloquence magnifique et habituelle, « non, la terre n'est à personne, les fruits sont à tout le monde. Hein. » Il aurait fallu... Ouais, mais malheureusement, car c'est toujours un malheur, c'est toujours... Mais malheureusement, si vous voulez... On l'a cru, ou en tout cas, l'humanité, si vous voulez, s'est engagée dans cette voie catastrophique, au sens géologique du terme, si vous voulez, dans cette voie catastrophique qu'est la société. Et la société fondée sur la propriété. Propriété privée, qui est au fond pour Rousseau, et vous voyez l'anticipation, enfin on est en 1750... un siècle avant Marx, Proudhon, hein, et la société et la propriété, au fond, n'est jamais, si vous voulez, qu'une appropriation. Donc, au fond, vous voyez que, au lieu que des gens comme Locke, auxquels Rousseau se réfère très souvent, posent justement la propriété comme le plus sûr rempart de l'individualité. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce que je possède qui me protège à la fois des autres et de l'État. Mais cette possession, elle est inaliénable, au sens strict du terme, parce que c'est le fruit de mon travail. À aucun moment, Rousseau ne met le travail comme fonction de la propriété ou de la richesse. C'est-à-dire que la propriété ou la richesse est, au fond, toujours le résultat d'une appropriation. C'est le résultat d'une conquête. C'est le résultat du vol, d'une certaine manière, pour dire les choses de manière très, très, très plate, si vous voulez. Mais c'est le résultat du vol. La propriété, c'est le vol. Aurait pu dire Rousseau bien avant Proudhon. Et c'est ça dont il nous explique la Genèse. Il nous l'explique, si vous voulez, un petit peu. Comme en mathématiques, c'est-à-dire que vous avez une fonction qui s'exponentialise. En se succédant. Au lieu d'avoir une succession, si vous voulez, homogène, au lieu d'avoir vous avez une succession qui est continuellement croissante. Eh bien, c'est ça, si vous voulez, la propriété chez Rousseau. C'est-à-dire que, même si au départ, la propriété est quelque chose d'extrêmement petit et insignifiant, ça va devenir quelque chose de fondamental dans les rapports entre les gens. Et c'est ce rapport à la propriété qui va, d'une certaine manière, faire des hommes des adversaires les uns des autres. C'est-à-dire que Rousseau inverse la relation que Hobbes établissait entre l'état de nature et l'état civil. C'est dans l'état civil que les hommes sont ennemis les uns des autres. C'est l'état civil qui est un état de guerre de tous contre tous, et non pas l'état de nature. C'est l'état de... Alors évidemment, c'est un état de guerre de tous contre tous. On n'est pas continuellement en train de s'envoyer des choses sur la figure, bien sûr. Mais, d'une certaine manière, c'est une guerre, si vous voulez, qui n'est pas phénoménale. Ce n'est pas une guerre visible, ce n'est pas une guerre bruyante. C'est une guerre sourde. C'est une guerre... C'est pire que la guerre bruyante, si je puis dire, parce que c'est une guerre institutionnelle. Autrement dit, les hommes se donnent des institutions dans lesquelles les uns profitent des autres, dans lesquels les uns oppriment les autres. Il ne dit pas exploiter, il dit opprimer. Mais on n'est pas loin de l'exploitation. Donc, vous voyez que, à ses yeux, si vous voulez, enfin, ce qu'il cherche à montrer, c'est pas à ses yeux, c'est pas ce qu'il voit, c'est ce qu'il veut nous faire voir. La société, si vous voulez, ou l'état social, résulte d'une usurpation. Et donc, absolument pas d'un droit. Hein. C'est pour cela que, quelques années plus tard, il écrira le contrat social, destiné justement à fonder la société si mal fondée sur un véritable droit. Donc il tentera, si vous voulez, de donner en quelque sorte la version normale de ce dont il a montré la pathologie, comme en médecine. On commence par décrire, si vous voulez, la maladie avant justement de tenter d'établir les remèdes. C'est un petit peu comme ça qu'il procède. Car au fond, le discours sur l'origine de l'inégalité, c'est un discours sur la pathologie sociale, sur la pathologie de l'homme à l'état, à l'état de société. Alors, sur quoi se fonde cette pathologie? Ou quel est, si vous voulez, le virus dominant, si je puis dire, de cette pathologie sociale? Qu'est-ce qui engendre, qu'est-ce qui dégrade, si vous voulez, corrompt, pour utiliser le mot de Rousseau, la relation des hommes les uns avec les autres, alors que chacun d'eux, pris en lui-même, n'a rien de méchant. C'est une thèse que continuellement Rousseau cherchera à défendre. Bien, d'une certaine manière, si vous voulez, pour le dire vite, c'est le soi, la conscience de soi, ce que Rousseau appelle l'amour propre. Il n'est pas le premier à appeler l'amour propre, mais bon, ce que Rousseau appelle l'amour propre et qu'il distingue toujours. Pour avoir raison, si vous voulez, surtout, hein, il commence par... et qu'il distingue de l'amour de soi. La différence étant que l'amour propre, c'est l'amour que... Comment dire? C'est un amour, si vous voulez, qui est fondé sur la supériorité qu'on cherche à avoir sur l'autre. Hein. L'amour propre, c'est le fait de vouloir être aimé. Un peu comme chez Pascal, qui disait, et pour cause, le moi est haïssable. Pourquoi? Parce qu'il veut justement toujours être aimé plus que les autres. Il veut aimer plus qu'être aimé. Alors que l'amour de soi est au fond une inclination naturelle. L'amour de soi, c'est le fait de tout être dans la nature. C'est le fait de vouloir se conserver. Le fait de... Et ça, c'est normal, ça, c'est naturel. Mais ce qui n'est pas naturel et pas normal, c'est le fait, si vous voulez, de chercher à subjuguer l'autre, c'est-à-dire à faire de l'autre le spectateur de mon ego. Hein ? Et de ce point de vue, à accaparer des titres, des distinctions, voilà le premier penseur de la distinction, à accaparer des titres et des distinctions qui vont justement permettre aux uns de se singulariser et de se faire admirer des autres, pour parler comme Pascal. C'est là le ferment de la guerre. Vous voyez, la guerre entre les hommes, ce n'est pas une guerre matérielle, si je puis dire. C'est une guerre symbolique. C'est une guerre qui passe par l'échange d'images, de symboles, de titres, de signes. Voilà ce qu'on fait dans la société. Je veux paraître plus fort, plus grand, plus généreux, pourquoi pas aussi, hein, y a ça aussi, que je ne suis. Voilà, c'est-à-dire que le point de départ de la société, c'est la dissociation, typique Rousseau, entre l'être et le paraître. À l'état de nature, l'homme est. Il est ce qu'il est. Et il n'a pas conscience d'être. Il est sans conscience d'être. Bon, je ne peux pas rentrer là-dedans. Alors que, à l'état civil, ce qu'on est compte moins que ce qu'on cherche à être auprès de l'autre. Par conséquent, la conscience de soi, si vous voulez, devient, en termes sartriens, une conscience de pour autrui. Vous voyez, j'ouvre une parenthèse, mais on trouve dans L'être et le néant, dans une des nombreuses analyses de la vie commune dans L'être et le néant, on trouve, si vous voulez, des analyses du regard, de la honte, du désir... Mais le regard chez Sartre, c'est très proche de chez Rousseau. Le regard, si vous voulez, c'est justement ce qui va me choséifier en quelque sorte, ce qui va faire de moi un objet de regard. Hein. Et en ce sens, le regard, c'est le premier moment de la lutte. La lutte, si vous voulez, c'est ce qu'on appellera plus tard une lutte des consciences ou une lutte pour la reconnaissance, mais elle passe d'abord, si vous voulez, par l'échange des regards. Hein. Et Sartre montre bien, enfin, avec beaucoup d'exagération, comme toujours, mais Sartre montre bien, si vous voulez, que le regard constitue, d'une certaine manière, pour celui qui en est l'objet, en un sens, son objectivation. C'est-à-dire, dans le vocabulaire sartrien ou hegelien, sa réification. C'est-à-dire, si vous voulez, pour parler comme tout le monde, le fait, si vous voulez, qu'on est quasiment pris pour une chose. Hein, du seul fait d'être regardé par quelqu'un que vous ne regardez pas. Hein, donc, rupture de réciprocité. Bon. Je ferme cette parenthèse. Mais on retrouve cette relation, si vous voulez, spéculaire, en quelque sorte, entre les individus qui constituent, si vous voulez, au fond, le premier moment de la vie sociale. Et donc, vous voyez que ça démarre mal, hein, la société. Ça démarre mal. Ça démarre, si vous voulez, sur une relation d'inégalité de l'un avec l'autre, d'inégalité sociale, ceux qui possèdent, ceux qui n'ont rien, d'inégalité symbolique, ceux qui commandent. Bref, voilà, les distinctions se mettent en place. Et dès lors que les distinctions se mettent en place, les inégalités apparaissent et, au fond, le devenir funeste, en quelque sorte, de la société se met en marche. Et c'est, voilà, et au fond, le résultat, si vous voulez, c'est une société dans laquelle, au lieu que les hommes soient unis, comme ils pensent qu'ils peuvent l'être dans le contrat social, les hommes sont fondamentalement divisés, ennemis les uns des autres. Hein. Mais justement, ça, c'est le produit de la société. Ce n'est pas le produit de la nature. Ça, c'est l'homme de l'homme. Ce n'est pas l'homme de la nature. Voilà le premier temps. Dans un deuxième temps, Rousseau va dégager, si vous voulez, ce qui, à ses yeux, constitue, c'est la deuxième partie, si vous voulez, du discours sur l'origine de l'inégalité. J'ai rapidement brossé les principaux traits de la première partie. La deuxième partie, donc, le discours sur l'origine de l'inégalité, qui va nous montrer, au fond, quelles sont les étapes de la constitution de la société dans laquelle nous sommes et que nous pouvons observer, un peu comme par progression, par étape, en quelque sorte. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir que le travail, les outils, la découverte des minerais, bref, tout ce qui fait, si vous voulez, la richesse et même quelquefois la fierté de l'humanité, est pensé par Rousseau comme justement des moments où les uns vont asservir les autres. Autrement dit, tout ce qui est pensé comme de façon neutre et même d'une façon positive, Rousseau le pense de façon différenciée et oppositive, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à ses yeux, toute découverte importante, la métallurgie, les métaux précieux, le commerce, une fresque, tout ça, si vous voulez, va servir aux uns à opprimer, si vous voulez, les autres et à profiter de leur travail. Et là, vous voyez que, au fond, le travail n'est pas quelque chose de fondamentalement libérateur chez Rousseau. Le travail a quelque chose, au contraire, d'aliénant. Pour utiliser un mot qu'il utilise et qui connaîtra une fortune considérable par la suite. Le travail est aliénant. Ça veut dire quoi ? Aliénant. Aliénant, ça veut dire être dans un autre. Ou être autre. Ici, l'aliénation du travail consiste dans le fait que l'homme ne se reconnaît pas dans le produit de son travail. Autrement dit, Rousseau, et Marx le suivra sur ce point, même si je ne suis pas certain qu'il ait lu le discours sur l'origine de l'inégalité, je suis certain qu'il a lu le contrat social, le discours, il n'y fait pas référence, donc laissons Marx. Rousseau considère, si vous voulez, que dans le travail, l'homme s'aliène d'une certaine manière dans le produit de son travail. C'est-à-dire que ce produit lui échappe. Ce produit lui est immédiatement repris au lieu que dans le travail artisanal, et Rousseau a toujours une nostalgie, si vous voulez, pour la petite cité, pour le petit établi, encore une fois, pour l'asile, hein, pour l'île, c'est-à-dire l'endroit où on se ferme sur soi-même, on vit de soi-même et on vit par soi-même. C'est ça l'idéal de Rousseau. Mais justement, la société nous jette en dehors de nous-mêmes. La société nous fait exister les uns pour les autres. Et du coup, nous n'existons plus pour nous-mêmes, ni par nous-mêmes. C'est ça l'aliénation. C'est, si vous voulez, le devenir autre du même. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui, pour Rousseau, bien plus que l'exploitation du travail, l'accaparement des richesses, etc., bon, toutes les choses très visibles et très manifestes, ça, c'est pour Rousseau, si vous voulez, le noyau même du malheur. On a beaucoup parlé sur la conscience du malheur, la conscience malheureuse chez Rousseau, si vous voulez, mais c'est ça, le malheur, c'est ça, c'est d'une certaine manière, si vous voulez, ne plus appartenir. Et c'est que ces produits, si vous voulez, nos produits, ce que l'on fait, d'une certaine manière, nous échappent ou bien se retournent contre nous et donnent lieu à des rapports entre les hommes qui sont des rapports, si vous voulez, de peut-être pas de violence, mais des rapports de rivalité, de concurrence, d'envie, de jalousie, etc., etc. Voilà les affects fondamentaux de la société humaine telle qu'elle est devenue. C'est une société où les gens s'envient les uns les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans le regard des autres, au lieu de vivre en eux-mêmes, repliés sur eux-mêmes, comme quelque chose d'autonome, quelque chose de fermé, quelque chose de clos, quelque chose de complet aussi. C'est cette sorte d'incomplétude, cette sorte d'insatisfaction qui caractérise justement la vie de l'homme en société. Il n'est jamais satisfait, non pas par nature, comme on le dira, c'est pas le désir ou c'est pas des choses comme ça, c'est pas psychologique, Rousseau, c'est pas par nature, c'est anthropologique. C'est-à-dire, il n'est pas satisfait. Pourquoi ? Parce que justement, il a perdu la capacité justement de demeurer en lui-même, de rester ce qu'il est, et de ne pas justement vouloir être plus que ce qu'il est, ou avoir plus que ce qu'il a. Mais être content, si vous voulez, c'est se contenir, en un sens. Eh bien, voilà ce dont la société prive et privera de plus en plus les hommes, du contentement qui naît de la sphéricité, si je puis dire, si vous voulez, de nos besoins, c'est-à-dire du fait que nos besoins et la satisfaction de ces besoins forment une sorte de sphère immanente. J'ai un besoin, je le satisfais. Et c'est fini. Vous voyez, je ne vais pas chercher. Tandis que le propre de la société, c'est ce qu'on dira par la suite, c'est toujours plus, c'est accumuler, c'est vouloir plus, etc. Et, ce point de vue, non seulement être en guerre les uns contre les autres, mais être insatisfait soi-même. C'est l'homme de Hobbes. Vous savez, au chapitre 10 du Léviathan, c'est un magnifique chapitre dans lequel il dit « Il n'existe ni finis ultimis, ni fin ultime, ni summum bonum, ni souverain bien, mais la félicité en cette vie, dit Hobbes, consiste à enchaîner désir après désir, pouvoir après pouvoir, et sans qu'il y ait un terme autre que exit, sans qu'il y ait un autre terme que la fin, purement et simplement. Autrement dit, si vous voulez, la vie humaine est une... Il compare la vie humaine à la course, à la compétition, la vie humaine est une continuelle marche en avant du désir. La phrase est célèbre. Pouvoir après pouvoir, sans qu'on puisse... C'est contre ça, justement, que Rousseau écrit ce discours. Pour montrer qu'à l'état de nature, l'homme a de quoi se satisfaire. En lui-même, l'homme a de quoi se satisfaire. Et s'il ne se satisfait pas, s'il court après les biens, c'est en raison d'un dérèglement social. Et pas en raison d'une sorte de constante naturelle. Autrement dit, ce que Hobbes impute à la nature humaine, Rousseau l'assigne aux causes sociales. En un sens, si vous voulez, c'est le premier moment de la sociologie et de la causalité sociologique. Plus naturel, plus historique, plus divine, ça fait déjà un petit moment, plus naturel, mais au fond, historico-social. Nous sommes ce que la société nous a fait, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que, au fond, c'est une aliénation, d'une certaine manière. Alors, c'est une aliénation négative, il y aura une aliénation positive avec le contrat social, mais pour l'instant, on est dans l'aliénation négative, c'est-à-dire dans la description de la pathologie. Voyez ? Bon. Alors, un mot avant de passer au troisième point. Quelque chose que j'ai omis, parce que bon, on ne peut pas parler en même temps de plusieurs choses, ce qui est dommage d'ailleurs. J'ai toujours regretté ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. Pardon, hein, j'ai des instruments précieux et très apparemment fragiles. Bon. Je crois que j'ai un petit peu bougé le micro. Non, mais ça va. Si ça va, ça sonne, voilà, c'est ça. Voilà. Merci. Oui, j'ajoute une note de bas de page à ce deuxième chapitre, à ce deuxième paragraphe de mon exposé, pour dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué. C'est la question de l'entendement, de la raison, tout ce que vous voulez. Bon, de tout temps, comme disent les élèves dans les dissertations, les premiers mots des dissertations, de tout temps les hommes ont pensé que l'homme, c'était d'abord et avant tout un être raisonnable. Non, mais il ne faut pas rire, hein, parce que c'est au sens anthropologique du terme, hein, c'est pas au sens individuel du terme, et encore moins moral du terme. L'homme est un être raisonnable, un être de raison, c'est-à-dire que l'homme possède, en plus des choses que les animaux possèdent, la raison, logos. Zoon, logikon, disaient les Grecs, un animal, logikon, qui parle ou qui possède la raison. Bon, voilà, en gros. Évidemment, vous pensez bien que Rousseau ne va pas en rester là. Vu qu'il démonte et il déconstruit toute chose qu'il considère au fond comme un préjugé philosophique, il va s'attaquer à celui-là, peut-être comme au plus nucléaire, si vous voulez, de tous les préjugés. Non pas que l'homme ne puisse pas être défini comme étant un animal qui possède la raison, bien sûr que non, bien sûr. Mais comme faisant, si vous voulez, de la raison, un usage, là aussi, contre nature. Car Rousseau ne met pas en cause les dons du ciel ou de la nature dont l'homme est le récipiendaire. Il ne met pas en cause ça. Il y a toujours chez lui presque l'idée d'une bonté originelle, si vous voulez, à la fois de la créature et du créateur. En général, c'est plutôt le créateur, mais bon, là, c'est les deux. Il y a une sorte d'homogénéité entre les deux. Seulement, justement, donc, si la raison a été donnée à l'homme, c'est pour un usage ou une fin déterminée. Et une bonne fin, un bon usage. L'homme, évidemment, par la raison, s'élève au-dessus des animaux. Mais c'est un problème délicat sur lequel je vais revenir dans un instant. Seulement, cette raison, qui à l'état de nature et pour ainsi dire, en sommeil. L'homme, à l'état de nature, encore une fois, ne dépasse pas le stade animal. Mais malgré tout, c'est quand même un homme. Même si la différence est minime entre l'homme et certains animaux. Il y a une note, une grande note du discours sur l'origine de l'inégalité dont je vous lirai peut-être quelques passages si discussion il y a, parce que bon, je ne veux pas m'interrompre pour la lire. Mais elle est très importante sur justement la qualification d'homme. Au fond, voilà, à quels critères on peut reconnaître un homme et dire que c'est un homme. Et c'est l'exemple des pongos, des grands singes, vous voyez, hein, que Rousseau. Est-ce que les explorateurs pourraient dire c'est un singe et pas un homme, c'est un homme, c'est pas ça, vous savez, voilà. on n'est pas loin de Darwin. Hein. Ça avance hein, dans ce sens-là. C'est-à-dire que la frontière commence à être très largement opaque, ou floue, ou mobile, comme on voudra dire. Bon, je reviens sur la raison. La raison, à l'état naturel, si vous voulez, est évidemment une propriété qui distingue l'homme et dont l'homme peut faire un bon usage, la preuve, le langage, la société, etc. Autant de choses, si vous voulez, qui sont évidemment redevables à la raison. Seulement, la raison sert, si je puis dire, un autre maître que la vérité. Et la plupart du temps, elle sert un autre maître que la vérité. Donc enfin, la raison, si vous voulez, ce n'est pas déifié par Rousseau. Car ce qui est déifié chez Rousseau, c'est la vérité. C'est le vrai. Et est-ce que la raison est toujours l'instrument du vrai ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et pourquoi la raison n'est-elle pas l'instrument du vrai ? Ce n'est pas de la faute de la raison. C'est la faute des passions. Non pas des passions naturelles, mais des passions sociales. L'envie, la convoitise, le désir d'en avoir plus, le fait de subjuguer les autres, le fait de paraître plus meilleur qu'on est, etc., etc. C'est ça qui va faire de la raison l'instrument de nos passions. C'est-à-dire que, au fond, on va se servir de la raison non pas pour connaître la vérité, mais pour accroître notre pouvoir sur les autres. Donc il y a une sorte d'instrumentalisation de la raison. Et si on n'écoutait que la raison, ou si l'homme n'était qu'un être raisonnable, ce qu'à Dieu ne plaise, au fond pour Rousseau, si c'était ça, en un sens, si vous voulez, nous serions tous des monstres les uns pour les autres. C'est comme si vous voulez, nous étions transformés en machines à calculer, en machines à penser, et que nous fonctionnerions extrêmement bien, c'est-à-dire comme des machines, mais sans aucun sentiment. Sans aucun sentiment. Autrement dit, la raison, et c'est ce qui se produit au fond dans la société, étouffe d'une certaine manière la sensibilité, le sentiment, dont Rousseau est, vous le savez, le grand chantre. Alors, il y a, si vous voulez, cette guerre entre la raison et le sentiment, c'est au fond une guerre, on pourrait dire ça d'une façon un peu abrupte, c'est une guerre, si vous voulez, entre le devenir social de l'homme et la naturalité inscrite en lui. Voilà. Autrement dit, si toute trace de naturalité en nous était effacée, s'il ne restait rien que la raison, c'est-à-dire, au fond, le raisonnement, la capacité à calculer, comme chez Hobbes. La raison, c'est ça, c'est un instrument de calcul. Eh bien, je le redis, je le répète, nous serions des monstres les uns pour les autres. Ça veut dire quoi être un monstre ? Ça veut dire ne pas être humain. Par conséquent, qu'est-ce qui fait l'humanité de l'homme ? Pas sa puissance, l'humanité. Qu'est-ce qui fait l'humanité de l'homme ? C'est la sensibilité. Et c'est ce que Rousseau appelle, la page est célèbre, la pitié. La pitié. Je préfère en parler dans le troisième moment, c'est-à-dire en rapport avec la question de l'animal, que je commence maintenant. Rousseau, la page est célèbre, et Lévi-Strauss, justement, considère que c'est peut-être le plus grand apport de Rousseau que d'avoir, justement, considérer que la pitié nous faisait sortir de nous-mêmes, nous faisait nous identifier avec notre semblable, et que cette identification avec le semblable était corrélée, si vous voulez, ou liée à une désidentification d'avec soi. Autrement dit, si vous voulez, la relation au semblable, la relation avec les semblables, si vous voulez, est une relation, inverse de la relation avec soi-même. Plus on va vers ses semblables, et moins on est attaché à soi. Mais c'est circulaire. Il faut aussi ne pas être attaché à soi pour aller vers ses semblables. Donc, vous voyez que, ici, si vous voulez, tout repose sur le soi. Tout repose sur le soi. Et c'est ça l'idée de Rousseau, aussi bien pour le regard que pour dans la pitié, au fond, si nous n'étions que ce que nous sommes, si chacun était, comme dit Pascal, un tout pour lui-même. le mois de Pascal, eh bien, nous serions des monstres. Des monstres logiques. Ce ne serait pas, si vous voulez, avec des figures bizarres et des 36 membres, etc., comme les monstres de la mythologie. On serait des monstres logiques. Un ordinateur, si vous voulez. L'ordinateur, il ne vous demande pas comment ça va, ce matin. Ou il ne verse pas une larme parce que vous êtes malade. Ou il... Voilà. Autrement dit, on serait des monstres logiques, c'est-à-dire, nous ne connaîtrions que ce que nous avons à connaître et à traiter, d'une manière purement objective et rationnelle. Voilà. Et, au fond, nous ne serions plus humains. Alors, je repose ma question. Qu'est-ce qui fait l'humanité de l'homme ? Le fait d'être sensible, pas seulement à son semblable, mais à tout ce qui souffre. Autrement dit, et c'est un point que Lévi-Strauss met en avant dans son article, dans sa conférence sur Rousseau, autrement dit, ce que Rousseau introduit dans le champ anthropologique, qu'il avait en un sens exclu, au nom de la raison, au nom de... du droit, au nom de ce qui est l'essence de l'homme. Ce que Rousseau introduit, c'est la vie. C'est le vivant. Et c'est le fait que l'homme est un être vivant, avant d'être un être pensant. Autrement dit, il est animal, mais dans le sens où animal veut dire animé, un être animé. Vous voyez ? Et c'est en ce sens que il pactise, si je puis dire, il sympathise avec tout ce qui vit. Car tout ce qui vit, hélas, souffre aussi. Et c'est la souffrance qui est en un sens le symptôme, non seulement de la vie, mais de l'égalité de la vie dans tout ce qui vit. Autrement dit, je ne sais pas, bon, ce n'est pas un exemple de Rousseau, qu'un petit oiseau, encore que c'est très, très touchant, un petit oiseau. Prenons une petite bête qui n'a aucune, pour laquelle nous n'avons aucune empathie, je ne sais pas, moi, un ver de terre, des trucs comme ça, vous voyez, des trucs qui sont plutôt. Etc. Malgré tout, si vous voulez, pour un homme humain, il sera toujours douloureux de lui infliger la mort ou une blessure, ou même de considérer qu'il souffre, d'apercevoir qu'il souffre. Car on n'aperçoit pas que quelqu'un souffre par son entendement. On ne se dit pas, tiens, ce signe est l'expression de la souffrance. Non, on aperçoit que quelqu'un souffre par sa sensibilité. C'est pour ça que Rousseau, si vous voulez, au fond, souvent durcit l'opposition entre sensibilité et entendement et fait de la sensibilité une sorte de frein pour l'entendement. Une sorte d'autorégulation de la raison. Si nous n'étions pas des êtres sensibles, la raison pure, si je puis dire, ferait de nous des monstres. Et donc, qu'est-ce qui nous rend humains ? C'est le fait que la raison, dans ses envolées, si je puis dire, dans sa démarche, si vous voulez, ininterrompue, est comme freinée ou retenue par un sentiment. Vous voyez, on peut avoir tous les griefs qu'on veut contre quelqu'un. On peut penser que quelqu'un est le dernier des derniers. Mais à le voir souffrir, on sera à ce moment-là comme retenu. Autrement dit, la relation va, si ce n'est s'inverser, du moins se neutraliser, se suspendre. On va oublier que nous sommes ennemis. Vous voyez, la souffrance restitue d'une certaine manière l'unité de l'humanité à travers l'unité de la vie, à travers l'unité du vivant. Donc vous voyez, Rousseau dit, c'est la fin du cogito. Et il pourrait ajouter, enfin, parce que c'est vraiment ce après quoi il en a. C'est la fin du cogito. Mais quand Rousseau parle de Descartes, qu'il admirait beaucoup, il faut toujours entendre Sartre, qui était son ennemi intime, si vous voulez. Et donc, Sartre-Descartes, même combat. Donc, quand il critique Descartes, quand il oppose Descartes à Rousseau, c'est comme s'il s'opposait à Sartre. Au fond, voilà, il rejoue la scène, si vous voulez, à travers des personnages d'emprunt. Mais malgré tout, il dit quelque chose d'important, et d'important notamment pour la détermination de ce champ qu'on appelle l'anthropologie. Il dit, si vous voulez, que si on commence par faire de l'homme un « je », un « ego », un « cogito », un « je pense », forcément, l'autre sera un être distinct de moi. Le propre du cogito, c'est la distinction. S'il y a une idée claire et distincte, c'est bien celle du cogito comme chose qui pense. Et donc, cette distinction de moi avec les autres constitue pour Lévi-Strauss, lisant Rousseau, constitue, si vous voulez, le fondement de toute division ultérieure entre les hommes et entre les cultures. On pourrait dire, si vous voulez, entre les hommes et entre les mondes. Constitue le fondement de... Voilà. Dès lors que vous commencez par le cogito, vous n'allez pas pouvoir reconnaître d'autres semblables, si vous voulez, que les mêmes que vous. Vous allez être circonscrit dans le cercle du même. Vous voyez ? Et distribuer, si je puis dire, l'humanité, le tampon de l'humanité, à ceux qui peuvent montrer qu'ils pensent. À travers le langage, à travers des signes, etc., etc. Autrement dit, c'est un procédé discriminatoire qui consiste à séparer ceux qui pensent et dont je suis sûr qu'ils pensent, dont je suis certain qu'ils pensent, de ceux dont je ne peux pas dire s'ils pensent ou s'ils ne pensent pas, à commencer par les animaux. Mais on peut aller plus loin. On va le voir dans le quatrième point, dans le quatrième temps d'ailleurs. Ça va encore ?
C'est bon.
Il ne faut jamais dire ça à quelqu'un qui parle. En tout cas à moi. Oh, si c'est bon alors, je vais pouvoir m'étaler dans le quatrième point. Donc je finis le troisième quand même, sur l'animal. Alors, je reviens, si vous voulez, à la pitié. Comme sentiment originaire, comme sentiment générique. On va dire, si vous voulez, comme le sentiment de tous les sentiments. Dans tout sentiment, il y a de la pitié. Il y a de la pitié dans la générosité, il y a de la pitié dans l'amitié, il y a de la pitié dans la compassion, bien sûr. Bon, il y a de la pitié. Bon, dans tous les sentiments, en tout cas, positifs. Altruiste, si vous voulez. Altruiste, c'est un petit peu la cellule engendrant l'altruisme, la pitié. Parce que la pitié, en un sens, fait sortir le sujet spectateur de lui-même pour le transporter, évidemment de manière imaginaire, de manière idéale, pour le transporter dans l'animal souffrant. Et à ce moment-là, Rousseau ne dit pas dans l'être semblable souffrant, il dit l'animal souffrant. Sous-entendant, si vous voulez, que, au fond, lorsque nous souffrons, nous sommes moins des humains ou des non-humains que tous des animaux, en un sens, c'est-à-dire des êtres vivants. Voyez, au fond, la coupure pour Rousseau ne passe pas, si toutefois il y en a une, entre les humains et les non-humains. Elle passe, si toutefois il y en a une, entre justement le sentiment et l'absence de sentiment. La pierre n'a sans doute pas de sentiment. Voilà tout ce qu'on peut dire. Mais on ne peut pas dire que le cheval, que le chien, que peut-être même que l'abeille, j'en sais rien, peut-être que les insectes n'ont pas de sentiment. Dès lors que ça vit, dès lors que ça bouge, dès lors que ça peut mourir, ça peut souffrir. Voilà, c'est inclus. La souffrance est inclue dans le fait de pouvoir mourir. La souffrance, la douleur. Et c'est ça, si vous voulez, qui fait, d'une certaine manière, l'humanité. Vous voyez, ce ne sont pas des causes grandioses ou des idéaux majestueux ou des trucs lointains ou des lendemains qui chantent, etc. Non, c'est, en un sens, la compassion. Au sens étymologique du terme. C'est-à-dire pâtir avec. Souffrir avec. Même si, évidemment, on ne souffre pas avec l'autre de la même souffrance que celle dont il souffre. Ça va de soi. Mais on se rapproche de lui, ou plus exactement, on ne peut plus rester en soi. La souffrance est peut-être la seule chose, la souffrance de l'autre, est la seule chose, si vous voulez, qui nous fait sortir de nous-mêmes. Ce nous-mêmes étant celui de l'amour propre, hein, évidemment, hein, n'étant pas celui du soi naturel, si je puis dire, mais étant celui de l'amour propre. Et par conséquent, on voit que même dans le devenir social le plus aliénant et le plus développé, il reste la possibilité pour les hommes de se montrer humains les uns envers les autres, et cette possibilité, elle s'atteste dans la pitié. C'est pour ça que Rousseau dit, d'une façon qui est toujours un peu provocatrice, hein, bien sûr, ce sont ceux qui raisonnent le moins, ce sont ceux qui, entre guillemets, pensent le moins, qui sont les plus sujets à éprouver de la compassion pour autrui. Et comme toujours, sa cible, sa tête de turc, si je puis dire, hein, c'est le philosophe. Hein. Le philosophe, quand il entend des gens crier dans la rue ou se battre, ou là, il ferme les fenêtres. Ça l'empêche de penser. Ça l'empêche de réfléchir. Ça l'empêche d'écrire. Hein. Car lui, il n'écrit que pour l'humanité tout entière. Que quelques hommes qui s'entretuent dans, sous sa fenêtre, ça lui fait ni chaud ni froid, comme on dit d'ailleurs. Ni chaud ni froid. Voilà. Hein. Donc, exit le philosophe. Exit le philosophe en tant que c'est quelqu'un, si vous voulez, qui cherche non pas à se mettre à la place des autres, mais à penser pour les autres. Et donc à usurper d'une certaine manière une fonction, si vous voulez, qui est celle de tout le monde. Il est très critique envers les philosophes, Rousseau, hein, vous savez. Mais aussi tous les possédants, si vous voulez, tout ce qu'il appelle les bourgeois, en général. Hein. Les bourgeois, si vous voulez, s'il y a un petit problème, s'il y a une petite émeute, s'il y a un petit esclave, etc., ils vont là aussi se protéger chez eux. C'est toujours cette idée. On ferme les portes, on reste entre soi, et on n'entend plus autrui. Et il dit, c'est la canaille, c'est l'effort des halles, c'est les femmes vulgaires, si vous voulez, hein, qui vont séparer les combattants, qui vont se jeter au devant. Voilà, c'est eux qui éprouvent, parce que justement, ce sont des êtres primitifs. Heureusement. Et heureusement qu'il y en a. Heureusement qu'il y en a qui sont restés primitifs. Et primitif, ça ne veut pas dire idiot. Hein. Primitif, ça veut dire proche de la nature. Encore proche de la nature. Par opposition à nous, qui sommes dénaturés. Et donc, au fond, c'est ça, la socialité, c'est la dénaturation. Donc, c'est le processus inverse, si vous voulez, de celui de la nature. Et donc, forcément, la société, c'est une antinature. Vous voyez la perspective. Le contrat social, d'une certaine manière, sera un effort, justement, pour redonner à la société, en un sens, un fondement naturel, contre les sociétés antinaturelles qui sont les nôtres. Voilà. Alors, dernier point. J'ai dit, le moi et autrui, Lévi-Strauss dit, pour l'animal, le plus humble des autrui. Le plus humble des autrui. Autrui, c'est un invariable. Hein, donc, le plus humble des autrui. L'animal, c'est le plus humble des autrui. Mais, d'une certaine manière, la pensée de Rousseau dans ce texte, si vous voulez, est une pensée donc, qui réconcilie en un sens l'animal et l'homme, d'accord, mais qui cherche non pas à réconcilier, mais à complexifier la notion ou l'idée d'homme. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, l'homme est un animal raisonnable. Oui, d'accord, en gros et génériquement. Mais est-ce que cette définition ne va pas servir aux uns de moyens de discriminer entre les hommes, ceux dont on est sûr qu'ils pensent, nous par exemple, hein, et ceux qui nous ressemblent ou ceux qui peuvent nous dire que... Voilà, et ceux dont, pour des raisons X, Y, nous ne sommes absolument pas sûrs de pouvoir dire qu'ils pensent. Hein, vous vous souvenez des rapports que Las Casas, lors de la controverse de Valladolid, à la fin du 15e siècle, ou du 16e. Bon, laissons.
la controverse de Valladolid, donc sans date, dans laquelle justement la question c'est de savoir si les sauvages ont une âme. Ah, vaste question, hein. Ça, c'est savoir si les sauvages ont une âme, puisqu'ils ne parlent pas la langue que nous parlons, puisqu'ils n'ont absolument pas les coutumes que nous avons, puisqu'ils se baladent tout nus alors que nous nous sommes habillés, puisqu'ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'est Dieu et de la foi chrétienne, hein, quoi en faire, hein. Et Rousseau, dans la note 10 du discours sur l'origine de l'inégalité, justement, dit « c'est quand même étrange que les philosophes, quand ils parlent de l'homme, hein, ils ne vont pas un peu voyager ». Non, ils restent chez eux. Hein. Ils restent chez eux, mais s'ils ne les empêchent pas de parler de l'homme universellement. Hein. Ils ne vont pas un peu voyager. Ils n'ont pas, si vous voulez, l'audace, la curiosité, l'honnêteté aussi, des grands philosophes de l'Antiquité, que Rousseau crédite, je ne sais pas trop comment d'ailleurs, que Rousseau crédite justement d'une curiosité qui faisait qu'ils allaient voir les différentes populations qui étaient autour de chez eux, etc. etc. Et il dit, au fond... Nous avons des Buffon, nous avons des D'Alembert, nous avons des gens comme ça qui font des travaux extraordinaires. Mais nous n'avons pas un Buffon ou un D'Alembert de l'homme. C'est-à-dire quelqu'un qui va aller voir, justement, sur place, comment vivent et pensent les autres hommes que nous. Hein. C'est-à-dire ceux qui, justement, sont plus autres que nous. Hein. Vous voyez, jouant plus sur l'altérité que sur l'identité. Et par conséquent, au fond, pour Rousseau, si vous voulez, voilà, il y a une sorte de partition continue. On commence par se distinguer d'autrui. Je ne suis pas autrui, il n'est pas moi, bon, etc. On commence par se distinguer d'autrui. On commence par se distinguer de l'animal. Je ne suis pas un animal. On commence par se distinguer d'autrui, je suis pas toi, t'es pas moi, hein, chacun chez soi, en gros, ou chacun soi. On commence par... Et on finit toujours par se distinguer des autres cultures. C'est-à-dire, au fond, par penser qu'elles sont au mieux, si vous voulez, en voie d'atteindre le niveau de perfection et de dignité qui est celui de la nôtre. Hein. Au mieux. Hein. Quand ce n'est pas, justement... des sauvages, des primitifs. Lisez Montaigne, l'admirable chapitre sur les cannibales. Hein, voilà. Bon. Rousseau procède de ce courant de pensée qui consiste justement à dire arrêtons de voir les autres avec nos yeux. Alors, bon, on dirait oui, mais c'est pas facile, si vous voulez, de voir autrement. C'est ça tout l'effort, au fond, de l'anthropologie, en tout cas d'une anthropologie fondée, hein, véritable, rigoureuse, qui est justement non pas de voir l'autre comme il se voit lui-même, mais d'essayer de se voir soi comme l'autre pourrait nous voir. Hein. C'est-à-dire faire cette sorte de conversion, hein, presque logique, hein, cette sorte de conversion entre le moi et l'autre, et qui consiste, si vous voulez, à s'altérer soi-même pour mieux pouvoir considérer l'identité d'autrui. Vous voyez ? La condition, si vous voulez, pour reconnaître l'autre, c'est d'une certaine manière de me rendre autre à moi-même, de me faire autre pour moi-même. Alors bon, c'est pas évident, c'est pas facile, etc. Voilà le but, voilà pourquoi il faut critiquer les préjugés, selon Rousseau. C'est ça le fond des préjugés. C'est ce qui nous attache à nous. Et c'est ce qui fait qu'on voit le monde à travers nos œillères ou nos yeux ou nos œillères, enfin ce que je disais, à travers... voilà, c'est ce qui fait qu'on voit le monde tel que nous sommes et non pas tel qu'il est. Car pour le voir tel qu'il est, il faut d'une certaine manière adopter ce que Lévi-Strauss appelle le regard éloigné. Le regard éloigné. Lévi-Strauss, donc pratiquant l'anthropologie, disant bon, le principal souci de l'anthropologie, c'est ça, c'est d'arriver, si vous voulez, non pas à comprendre l'autre tel qu'il se comprend lui-même, ça c'est une foutaise, si vous voulez, hein, non pas arriver à comprendre l'autre tel qu'il se comprend, mais à laisser d'une certaine manière à l'autre la possibilité de s'exprimer comme autre, et non pas de répondre à nos questions. Hein. Vous voyez, s'il ne répond pas à nos questions sous la forme d'un test, c'est pas bon. Non, il faut peut-être changer la méthode. et adapter au fond la méthode au terrain sur lequel nous sommes. Et si les conquistadores avaient fait ça, mais c'était le dernier de leurs soucis, hein, s'ils avaient procédé comme ça, peut-être qu'ils auraient justement évité, si vous voulez, d'engendrer des grands colloques ou des conclaves sur le fait de savoir si les Indiens avaient une âme. Hein. Après qu'on ait débattu, après qu'on a débattu longuement, longtemps, pour savoir si les femmes avaient une âme. Hein. Vous voyez, la conséquence est bonne. Il y a l'animal, il y a la femme, il y a l'autre, l'étranger. Voilà. C'est-à-dire que progressivement, le cercle se resserre autour de soi, dont on pense, au fond, que c'est quand même le modèle, quoi, de ce qui peut être. Et c'est ça que Rousseau détruit. Alors, je vais m'arrêter quand même, mais avant de m'arrêter, pas une fausse joie, avant de m'arrêter, je vais quand même vous lire le passage, le tout petit passage de la citation que fait Rousseau, que fait Lévi-Strauss d'une phrase célèbre de... Voilà. D'une phrase célèbre de Rousseau qui n'est pas dans le discours sur l'origine de l'inégalité, qui est dans l'essai sur l'origine des langues. Hein, que j'ai donné dans le résumé d'ailleurs de mon topo là, d'aujourd'hui. Voilà, c'est Rousseau qui parle. Hein. Quand on veut étudier les hommes, hein, pluriel, quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi. Les formules de Rousseau sont toujours paradoxales. Il adore ça. Hein. Bon, c'est son goût après tout. Bon. Mais pour étudier l'homme, et pas les hommes, hein, il faut apprendre à porter sa vue au loin. Il faut d'abord observer les différences pour découvrir les propriétés. Vous voyez, cette dualité que Rousseau fait entre l'homme et les hommes. Les hommes, ça veut dire la diversité. Ça veut dire, si vous voulez, la pluralité, la multiplicité. Mais au fond, cette multiplicité, elle n'est pas très offensante pour l'esprit. Hein, voilà, c'est comme ça, on est nombreux, on est plusieurs, il y a des différences, il y en a qui sont comme ça, d'autres qui sont autrement. Mais tout ça, ça rentre un petit peu dans le cercle finalement du même. Donc plus vous pluralisez d'une certaine manière l'échantillon, et plus vous restez dans le même, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans un premier temps. Mais quand il dit, si on veut étudier l'homme, c'est-à-dire non pas dans sa diversité empirique, mais dans sa structure fondamentale, alors il dit qu'il faut regarder au loin. Mais ça veut dire quoi, regarder au loin? Ça veut dire justement se dépayser. Ça veut dire sortir de chez soi. Hein, et pouvoir justement observer les autres, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez, non pas comme des choses rares, hein, non pas comme des oiseaux rares, hein, non pas comme des curiosités, vous voyez, comme on fait quand on est touriste, dit tiens, ils sont bon. Hein. Mais de les regarder comme pouvant exemplifier la nature humaine, à la fois l'exemplifier et la complexifier. Hein. C'est ça l'homme. L'homme, c'est ce qui peut supporter sous soi, si je puis dire, en tant que concept, hein, une diversité d'approches, de types, de races, de cultures, qui fait que elles ne sont pas hostiles les unes aux autres comme des mondes séparés, mais qu'elles constituent, si vous voulez, comme un ensemble de contributions extrêmement diverses, mais de contributions, au fond, à la détermination, si toutefois on peut le déterminer, à la détermination de l'idée de l'homme comme être générique, de l'idée abstraite, si vous voulez, de l'homme. Autrement dit, puis je m'arrêtais là, autrement dit, l'universel, si vous voulez, n'est pas fait par l'évacuation de toute différence, de toute dissonance, de toute opposition, de tout conflit. Mais l'universel, c'est ce par quoi, justement, on peut parvenir à rendre cohérent, cet ensemble a priori disparate de voix, de sons, de coutumes, etc., qui semble, si vous voulez, offusquer l'esprit, parce que c'est trop différent. Mais justement, peut-être qu'il faut à ce moment-là ouvrir, élargir davantage, c'est ça l'universalité, hein, et en un sens, penser, si vous voulez, sous le regard de l'universel, c'est justement le contraire, si vous voulez, de penser sous le regard du particulier qui consiste à ramener à soi, ou à ne considérer, ou à faire de soi, si vous voulez, la norme de ce qui est. L'universel est une, contrairement à ce qu'on dit, et aujourd'hui surtout, l'universel est un opérateur de décentrement, et pas du tout, si vous voulez, d'annexion de l'autre au même. Bon, ben c'est une autre question déjà. Bon, je vous remercie beaucoup de votre attention.
On se régale, hein? Donc, je vais rajouter une couche en disant merci, merci, merci. Il va revenir, hein, vous avez compris. Hein. Donc il y a encore deux séances avec lui, et ça va être Kant.
Courage.
Kant, c'est moins rigolo.
Kant, c'est moins, beaucoup moins rigolo.
Oui. Mais avec Guénantia, je suis sûr que ça va bien passer.
Oui, oui.
Voilà. Voilà. Donc c'est le moment de vous lancer dans l'exercice périlleux des questions. Hein. Voilà. Qui ose franchir le seuil? Ah bah oui, mais non, c'est toujours le même.
Hein. Et il lance la discussion.
Peut-être pour montrer que nous ne sommes pas totalement d'accord avec les antispécistes actuels qui consistent à nier toute différence entre l'homme et l'animal, ne faut-il pas quand même rappeler que pour Rousseau, perfectibilité et liberté...
Je suis désolé, j'ai oublié la perfectibilité. Bon, mais je vais recommencer.
Vous avez
j'ai oublié la perfectibilité.
Non, mais vous, allez-y.
Dans le cadre de ce que je disais sur raison et sensibilité, ou une chose comme ça, on rajoute un peu une petite chose, qui n'est pas une petite, mais une grande chose, et c'est l'idée que... ce qui caractérise l'homme par rapport à l'animal, c'est la capacité justement d'aller toujours plus loin. C'est-à-dire de sortir du présent, de sortir de son état actuel, d'anticiper, et pour le meilleur comme pour le pire. Et il semble que pour Rousseau, le pire soit beaucoup plus fréquent que le meilleur. Et le pire du pire, si je puis dire, c'est la mort. Selon Rousseau, qui semble connaître les choses par le dedans, l'animal ne craint pas la mort. Non pas parce qu'il est courageux ou valeureux, mais parce qu'il n'en a pas l'idée, parce qu'il est incapable de se projeter dans l'avenir. Seul l'homme sait qu'il va mourir, parce que l'homme a la capacité d'imaginer, donc de rendre présent ce qui est absent, selon la définition la plus banale qui soit de l'imagination. Donc, c'est vrai qu'il y a cette faculté, si vous voulez, la perfectibilité. Mais la perfectibilité, c'est pas l'entendement, vraiment. La perfectibilité, c'est beaucoup plus la liberté. Disons, on dirait aujourd'hui un programme souple de développement et pas rigide, que l'entendement avec ses catégories, avec sa structure, etc., etc. Voilà. C'est plus quelque chose qui est de l'ordre d'un devenir, d'un mouvement, ce mouvement, il peut aller dans tous les sens. Hein, il peut aller dans tous les sens. La perfectibilité, c'est ce qui fait aussi qu'il y a des sociétés qui dégénèrent, de l'inégalité. Le progrès de l'inégalité, c'est la perfectibilité aussi. Et ce n'est pas simplement le fait de sortir de l'animal. Hein. L'homme qui médite est un animal dépravé, dit Rousseau, qui n'en est jamais à un paradoxe près. Hein. L'homme qui médite est un animal dépravé. Autrement dit, la raison dénature l'homme. Et donc la perfectibilité, c'est aussi ce qui nous enlève de la nature, ce qui nous éloigne de la nature. Et ça, c'est fini. On ne pourra pas redevenir naturel. On ne pourra que fonder une société sur un droit naturel. Ce n'est pas du tout la même chose. naturel voulant dire légitime, ici. Mais c'est sûr que c'est je suis désolé d'avoir chanté ça, mais c'est bon.
Ça lui Merci. Donne l'occasion d'en remettre une couche, voilà. Donc, est-ce qu'il y a un courageux, un téméraire? Oui. Venez ici, ce sera plus simple.
Oui.
Pas parce que tu vois la chose avec des yeux d'humain.
Et comment voir autrement?
Oui, mais non, mais surtout, comment est-ce qu'on sait que les animaux, comment est-ce qu'on peut assurer le fait que les animaux ne pensent pas?
Alors, je vais vous répondre en cartésien que je suis et que je reste, malgré Rousseau. Je vais vous répondre qu'en fait, on n'en sait rien. Car pour Descartes, et dites-le et redites-le autour de vous, pour Descartes, on ne sait pas si les animaux pensent ou ne pensent pas. Il dit que rien dans leur comportement ne peut montrer assurément qu'ils pensent. C'est tout ce qu'il a dit. Mais que n'a-t-il pas dit là, hein? Et donc c'est des machines, c'est des trucs. Non, on ne peut pas avoir un argument qui permette de penser. Rousseau vous dirait qu'ils pensent, j'en sais rien, les animaux. Mais qu'ils souffrent, oui. Un cartésien vous dirait qu'ils souffrent, au sens banal du terme, oui. Mais qu'ils souffrent comme les hommes, c'est-à-dire en ayant conscience de souffrir, ça, je ne peux pas l'attribuer aux animaux tant que je n'aurai pas la preuve qu'ils pensent. Donc, vous avez tous les deux raison, votre ami et vous. Hein, c'est-à-dire que on peut tenter une approche, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, hein, tous les éthologues font ça, hein, on peut tenter une approche consistant à affiner les tests. Mais vous voyez, déjà cette approche, il y en a un qui questionne et l'autre qui s'en fout. Hein. C'est quand même l'homme qui se pose la question de savoir si l'animal pense. C'est pas l'animal qui se pose la question de savoir si on est animaux. Hein. Il y a une asymétrie ici. Hein. Il y a une asymétrie qui vient du fait que, voilà, malgré tout, si vous voulez, l'homme pense, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est inquiet, qu'il cherche, qu'il ne sait pas. Et donc il est... mais il y a quelque chose de fini dans l'animal qui fait qu'il semble, d'une certaine manière, être en lui-même, et seulement en lui-même, et non pas pour autrui. Bon, mais c'est pas... Oui.
Il y a un article du Monde d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus, que j'ai lu, dans lequel il y a des chercheurs qui sont en train de mettre en évidence qu'en fait les animaux parlent, mais qu'on ne les...
Oui. Mais ça c'est... Alors, voilà. C'est une recherche qui remonte à longtemps, parce qu'Empédocle disait la même chose, hein, dans l'Antiquité.
C'est un article d'hier.
Oui. Non, mais je connais les articles des journalistes, en général. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de savoir pour affirmer des choses. Mais là, dire qu'il y a des gens qui disent, depuis la nuit des temps, comme disent les étudiants, de tout temps... l'homme se demande justement si l'animal ne parle pas. Et bien des... Écoutez, regardez Montaigne qui dit qui de ma chatte et de moi se joue de moi. Voilà. Bon. Et Montaigne ne fait que reprendre des propos de philosophes de l'Antiquité. Que ces questions passionnées. La question du langage animal. Oui.
Bon, je sens qu'on va faire une thématique là-dessus l'année prochaine.
Ouais, c'est passionnant.
Mais, non, non,
c'est
mais
un sujet passionnant.
C'est une idée.
Hein.
Tout à fait.
C'est un sujet passionnant.
Tout à fait. Bien, eh bien, écoutez, merci beaucoup encore. Et donc, à bientôt.
Merci.
Donc,